Bonjour, chers amis. L'élargissement ou le rétrécissement, suivant le point de vue, des frontières de notre laïcité commence moins de 13 mois après le vote de la loi de 1905 et se fait en 7 grandes étapes jusqu'à la constitution de la Ve République. Il y a d'abord la loi du 2 janvier 1907 sur l'affectation des biens aux catholiques. Cette loi est votée devant le refus des catholiques de mettre en place des associations cultuelles. En présentant le contenu de la loi du 9 décembre 1905, j'ai montré la différence qu'il y avait entre les cultes et l'exercice des cultes. La loi de 1907 ne concerne que l'exercice des cultes. Voici ce que l'article 5 en dit. À défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles et garnissants, continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Et la jouissance gratuite en pourra être accordée, soit à des associations cultuelles, soit à des associations de la loi de 1901, soit aux ministres du culte eux-mêmes, c'est-à-dire l'évêque pour la cathédrale et le curé pour l'église. C'est donc cette loi de 1907, et non celle de 1905, qui voit la distinction que nous connaissons, encore aujourd'hui, entre les propriétaires, qui sont l'État pour les cathédrales, et les départements ou les communes pour les églises, construites avant 1905, distinction entre ses propriétaires et les affectataires, qui sont les évêques et les curés, mais qui peuvent être aussi des associations. Cette affectation est gratuite, exclusive et permanente. La loi de 1907 n'avait pas pour but de faire sortir l'Église catholique de l'illégalité où elle s'était mise par son rejet de la loi de 1905. Elle visait à sortir le législateur de l'embarras ou le mettait une situation qu'il n'avait pas prévue. Il n'est donc pas étonnant que les autorités religieuses et les fidèles aient vécu ce transfert des biens comme une spoliation et qu'ils aient porté sur la loi et sur le régime de séparation, ainsi que sur l'idée de laïcité, à laquelle ils en attribuaient avec raison l'inspiration, un jugement entièrement négatif. Tout cela a créé une ambiguïté fondamentale. Pour l'Église catholique, cette loi de 1907 était-elle un avantage ou une véritable spoliation? Deuxième étape, les exceptions légales et territoriales à la séparation des Églises et de l'État. Nous avons déjà vu que la loi de 1905 contient elle-même des exceptions à la non-reconnaissance des cultes et à leur non-rémunération, puisque son article 2 dispose que des crédits pourront être inscrits dans les budgets de l'État, des départements ou des communes pour toutes les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, les collèges, les écoles, les hospices, les asiles et les prisons. Pour ces services, il n'y a donc pas de véritable séparation des églises et de l'État, et des dispositions d'exception vont également intervenir en faveur de diverses collectivités territoriales de la République. C'est ainsi que le département de la Guyane relève d'une ordonnance royale de 1828. Le territoire de Mayotte et les Comores, qui est de religion musulmane, est exclu de l'application de la loi de 1905 par un décret de 1913 qui applique la loi à Madagascar. Les deux départements d'Alsace et de Moselle, séparés de la France au moment de la loi de 1905, sont, après leur retour en France, maintenus sous le régime du Concordat de 1801 et des lois allemandes de Bismarck. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent des régimes missionnaires des décrets Mandel de 1939. La troisième étape, ce sera l'accord de 1923 sur un statut type pour les associations diocésaines catholiques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu la Grande Guerre. Celle-ci fut un motif de réunion nationale, auquel l'Église catholique a largement apporté et payé son tribut. Le climat des années 1920 n'est plus alors celui des années 1900. Et la question de l'Église catholique face à la loi de 1905 est reprise, une fois encore, par Aristide Briand. Et de nouveau, c'est au sujet des fameuses associations cultuelles non mises en œuvre par les catholiques que le problème se pose. Mais, tirant les leçons des faux pas de 1905, Aristide Briand engage des négociations avec le pape Benoît XV. Celle-ci débouche, en 1923, sur un échange de lettres entre le gouvernement français et le pape Pie XI, acceptant de part et d'autre les statuts types d'associations diocésaines. Elles sont présidées par les évêques, donc elles préservent l'autorité de la hiérarchie ecclésiale, et elles s'occupent exclusivement de l'entretien du culte, donc sans toucher à la propriété des édifices du culte. Sur cet accord de 1923, il faut faire trois grandes observations. Sur la forme, il prouve que la République peut trouver un accord et assainir une situation avec un culte sans pour autant modifier un seul article de la loi de 1905. Mais il faut aussitôt ajouter que cet accord a une valeur légale réduite, puisqu'il n'a pas fait l'objet d'une loi de ratification. Il reste donc un contrat passé entre un gouvernement et le Saint-Siège, une sorte de mini-concordat sur un point particulier, que le Quai d'Orsay appelle une convention diplomatique en forme simplifiée. Nos actuelles associations diocésaines ne sont donc pas des associations loi 1901, comme beaucoup le pensent, même parmi les élus ou dans certaines administrations. Deuxième observation, cet accord reconnaît le droit à l'Église catholique d'avoir une organisation distincte de celle de l'État, qui, elle, est de type démocratique. Et puisque le statut type des associations diocésaines a été déclaré par le Conseil d'État comme n'étant pas contraire aux dispositions de la loi de 1905, c'en était donc fini de l'idée qui avait voulu réorganiser l'Église catholique sur le modèle démocratique de l'État français. Troisième observation, sur le fond cependant, il ne règle pas le problème de la propriété des édifices du culte, dont une bonne partie des catholiques s'estiment toujours avoir été spoliés. Et il entérine les oppositions du pape Saint-Pie-X aux associations cultuelles et la désobéissance des catholiques de France aux dispositions législatives concernant ces associations. Dès lors, l'Église catholique en France vit davantage sous le régime de cet accord que sous l'empire du texte de 1905, un accord qui n'a jamais été remis en question, puisque jusqu'ici, tous les gouvernements en ont respecté la lettre et l'esprit. Ces évolutions vont continuer à partir de la guerre de 1940 jusqu'à en arriver à l'inscription de la laïcité dans la Constitution française. Nous verrons ces dernières étapes la prochaine fois.